Bonjour, je m'appelle Martine Podesto. Je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Mon invité d'aujourd'hui est un des auteurs jeunesse les plus prolifiques au Canada. Créateur de plus de 200 livres, il a d'abord été illustrateur avant de se découvrir une passion dévorante pour l'écriture jeunesse. En plus d'être un habitué du palmarès Communication Jeunesse des livres préférés des jeunes, il a remporté de nombreux prix prestigieux, dont le prix du gouverneur général, le prix du livre Monsieur Christie et le prix Alvin Bellil. Il est l'auteur de la célèbre série Noémie, dont le personnage a été porté au grand écran en 2009 dans le film Noémie, le secret. Son dernier titre paru chez Québec Amérique est Super Sarah, l'école des parents. Gilles Thibault, bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur.
Merci beaucoup de me recevoir.
Ça me fait grand plaisir. Écoute, Gilles, c'est un peu difficile de lancer cette entrevue avec toi parce que ton parcours est immensément riche et vaste. Oui. Alors, j'avais envie de dire, commençons par le début, par le début de cette grande aventure, cette grande carrière. Tu as donc, on le disait en introduction, tu as été illustrateur quand même plusieurs années. Est-ce que c'était le plan de match au départ, avant de te consacrer à l'écriture jeunesse?
Faut dire dès le départ que j'ai aucun plan de match.
OK.
Mais vraiment aucun plan de match. Je ne fais que suivre mes passions profondes. J'ai commencé comme illustrateur parce que moi, au début, quand j'avais 10-11 ans, ce que je voulais dans la vie, c'est devenir un peintre.
Ah ouais.
C'est-à-dire genre un Picasso.
Ah ouais.
J'avais vu à un moment donné une image de Picasso devant une de ses toiles. C'est une image classique. Là. Picasso est en short, vu de dos devant une de ses immenses toiles qui le domine finalement. Puis je me suis dit, ah, ça c'est...
Moi, j'ai envie de faire ça.
J'ai envie d'être un artiste. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé par faire de la peinture.
Tout jeune, à 10 ans, 11 ans,
je faisais de la peinture.
Ah oui.
Et je voulais devenir un peintre. Et mon ambition, c'était d'aller aux Beaux-Arts et de devenir officiellement un peintre. Et j'allais dans les musées avec mes parents. Je me promenais un peu partout. Puis je regardais beaucoup les images, les peintures. Puis c'était ça. C'est ça que j'étais, en fait. C'est ça que j'étais. Et je voulais devenir ce que j'étais. Et la vie a fait que finalement, comme j'aimais beaucoup dessiner, la vie a fait qu'un jour, par hasard, je me suis retrouvé dans une école en construction, l'école de Mortagne à Boucherville. Et on est rentré à l'école au mois de septembre, et l'école n'était pas terminée, il y avait encore des gros X dans les fenêtres. Et il y avait une immense bibliothèque, je pense qu'on pouvait être assis 300 élèves dans cette bibliothèque-là, qui donnait sur les champs. Et je m'ennuyais mortellement. Il fallait faire une étude d'un livre dont je ne me souviens plus le titre, mais ça s'appelait « Méthodologie du travail intellectuel ». Et là, il fallait étudier... En tout cas, tout le monde s'emmerdait dans la bibliothèque. Vraiment, là, c'était pathétique. Et là, j'ai commencé à dessiner des petits gags. Un petit gag sur une feuille. Puis là, j'ai passé ça à mon voisin, qui a ri. Qui l'a passé à son voisin, qui l'a ri.
T'étais adolescent, là, à ce moment-là.
J'avais peut-être secondaire 4, je pense. J'avais peut-être 14.
Donc là, ça s'est passé dans
et
la
là,
classe.
Et là, le dessin s'est passé comme ça. Puis là, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est comme si j'avais découvert le pouvoir.
T'as vu l'impact que tu peux
l'impact
avoir.
Et le pouvoir du dessin. Fait que là, j'en ai fait un deuxième. Là, je l'ai passé à gauche. Écoute, à la fin de la période, je pense qu'il y avait 25 dessins qui se promenaient dans la bibliothèque. Et là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du dessin d'humour. Dessin d'humour, c'est-à-dire que c'est pas des caricatures, c'est du dessin drôle, avec un gag, mais sans texte. Donc, ça a commencé comme ça, c'est que le dessin se promenait, j'en ai fait de plus en plus, puis là, j'ai commencé à aimer ça beaucoup. Fait que là, j'ai lâché la peinture, puis je me suis mis à faire du dessin d'humour, mais j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec à peu près, je sais pas moi, 1000 dessins, je pense, j'en avais 1000. Puis là, j'avais 16-17 ans. Puis là, je me suis dit, mais ça serait peut-être le fun de commencer à faire quelque chose avec ça. Alors là, je les ai amenés au journal La Presse, il y avait un supplément à ce moment-là qui s'appelait le supplément Perspective, et il prenait beaucoup de dessins d'humour. Et le directeur artistique était très gentil, il m'a dit, bon, tes dessins sont pas terribles, mais tes idées sont très bonnes, Là, il m'a écrit sur un petit papier quoi acheter comme crayon, quoi acheter comme papier. Il dit, tu t'en vas chez Homer de Serre, t'achètes ça, tu me refais ces 5 dessins-là au propre, puis on va voir ce qui va arriver.
Oh, wow.
Et finalement, ma carrière a commencé comme ça.
Comme ça. Et puis, t'as poursuivi des études dans ce sens-là, ou c'est en fait...
En fait, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté mes études.
OK.
Moi, je voulais toujours rentrer aux Beaux-Arts, parce que c'était un rêve d'enfance. Et je suis allé au cégep en arts plastiques, j'ai adoré ça, j'ai fait mes 2 ans en 2 ans. Ça a l'air drôle à dire, mais ce qui est très rare, parce que je pense qu'il y en a qui sont encore là aujourd'hui. On étire la chose.
Oui.
Donc là, je suis rentré aux Beaux-Arts, mais là, ma carrière de dessinateur fonctionnait bien. Je publiais dans Perspective, je publiais dans plein de journaux.
Okay.
Écoute, à 16-17 ans, j'ai 18 ans, je gagnais ma vie avec ça. Faut dire que c'est une vie qui ne me coûtait pas très cher, mais je gagnais ma vie. Fait que là, à ce moment-là, j'ai pris la grosse décision de ma vie. Je sors des Beaux-Arts. Et je me lance dans le dessin et la bande dessinée. Alors, ma carrière a commencé comme ça.
Comme ça. Ouais. Hey, c'est intéressant. Mais puis, rapidement, je pense au milieu des années 70, est arrivé le premier contrat d'illustration roman jeunesse. Parce que, bon, tout à coup, s'est présenté cette opportunité-là. Comment ça s'est présenté?
Bien, ça s'est présenté qu'à ce moment-là, je faisais de la bande dessinée, beaucoup de bande dessinée. Donc, j'étais connu comme dessinateur de bande dessinée. Et on avait fait un livre de dessin d'humour aux éditions de l'Aurore à ce moment-là. En 76, je pense. Et ils organisaient à travers le Québec ce qu'on appelait des foires de l'horreur. Là. Il y avait Victor Lévy-Beaulieu là-dedans. Il y avait Gilbert Larocque qui était là-dedans, je pense, à ce moment-là.
Ah oui?
Je pense que oui. Et on se promenait à travers le Québec. Et là-dedans, il y avait un jeune éditeur qui s'appelait Bertrand Gauthier, qui avait parti de sa maison d'édition, qui s'appelait Le Tamanoir à ce moment-là, qui a vu mes dessins. Puis là, il me dit, ben écoute, j'aime ça tes dessins. Aimerais-tu illustrer un livre? J'avais jamais illustré un livre en couleur. Je faisais de la bande dessinée en noir et blanc. Et là, j'ai dit, ben oui. Et là, je suis tombé en amour fou avec l'illustration. Je me suis mis à faire de l'illustration comme un déchaîné. J'en ai illustré à peu près 80. J'ai fait 80 livres.
Tous des romans jeunesse ou des ouvrages pour la jeunesse?
C'était tous des ouvrages pour la jeunesse. C'était surtout des albums. De temps en temps, des petits romans en noir et blanc. Des pages couvertures de romans. Là, je me suis mis à faire des affiches aussi. Je faisais à peu près tout ce qui était possible de faire. Et je suis devenu le directeur artistique des éditions Le Tamanoir. En tout cas, j'ai porté ce titre-là pendant 4-5 ans. Et c'est moi qui recevais les graphistes, les illustrateurs. C'est moi qui faisais le montage des pochettes de disques, des livres, tout ça. Je suis dans le fond, un autodidacte.
Et puis, à un moment donné, tu as eu envie... Début des années 90, tu as eu envie d'écrire tes propres histoires. Comment ça s'est présenté, ce besoin que tu as eu d'écrire tout à coup tes propres histoires?
Ça s'est fait, il y a eu un glissement. Mais il faut dire que j'écrivais toujours un petit peu en cachette.
Ah.
Parce que moi, je viens d'une famille littéraire. Chez nous, il y avait plein de livres, des gros livres. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis devenu dessinateur, c'est-à-dire par réaction à mon environnement, pour me définir. C'est très psychanalytique ce que je dis là, mais tu sais, c'est vraiment, tu vis dans un milieu, donc tu veux te définir toi-même. Donc, comme il y avait beaucoup de livres avec bien du texte dedans, je me suis dit non, moi je veux faire d'autres choses. J'adorais le livre, par exemple, j'étais comme initié au livre et j'aimais le livre, mais je me suis dit je vais faire d'autres choses. Alors, je suis tombé dans l'illustration et ça me permettait de bien gagner ma vie aussi. Puis j'ai gagné plein de prix, puis j'étais un illustrateur connu et reconnu. Mais au fond de moi, j'avais toujours le goût de raconter mes propres histoires. Là, j'ai commencé à écrire sur un Mac, j'ai adoré ça. Puis à partir du moment où j'ai mis mes 10 doigts sur le clavier,
C'était parti.
Le plaisir d'écrire était comme... C'était plus fort que tout.
Ah oui.
C'était tellement fort qu'en l'espace de 1 an, j'ai arrêté de dessiner complètement. Les contrats d'illustration rentraient, parce que je gagnais ma vie avec ça. Les contrats d'illustration rentraient, je les refusais. Puis là, ça s'est mis à débouler, à débouler. Écoute, même moi, j'en revenais pas. Je veux dire, j'en avais presque des crampes dans les doigts, là. Ça sortait.
Donc, rappelle-nous les premiers ouvrages. En fait, il y a eu...
Bien, il y a eu des petits albums qui ont été faits que personne n'a connu. C'est le premier livre vraiment officiel que j'ai fait. Ça s'appelait « La nuit du grand coucou », écrit et illustré par moi aux éditions Le Tamanoir, qui étaient les ancêtres, l'ancêtre des éditions de la Corte
Chaude. La série Simon aussi qui était illustrée.
La série des Simon après ça, oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. La série des Simon après ça, ben là, j'écrivais le texte, les illustrations, je faisais le graphisme aussi, donc je faisais tout. Et là...
Avec laquelle, excuse-moi quand même, c'est pas rien. En 92, tu avais quand même remporté le prix du gouverneur général.
Oui, oui.
Donc, ça se passait plutôt bien, là. Tu étais bu en... Mais là, tu illustrais et tu écrivais.
Oui, là, j'étais pas perçu du tout comme un écrivain. J'étais perçu comme un illustrateur
qui
écrit ses textes.
C'est ça.
Donc, pour moi, à ce moment-là, le texte, c'était un prétexte pour dessiner. Même très souvent, je faisais toutes les illustrations avant.
Ah oui.
Et je faisais le texte après.
Tu greffais à ça le texte après.
Donc, j'étais pas encore... L'impulsion venait pas de l'écriture, l'impulsion venait plus du dessin, parce que c'est normal, ça faisait 25 ans que je dessinais. Et à un moment donné, il est arrivé toutes sortes d'affaires en même temps. L'ordinateur. J'ai été malade, j'ai fait de l'hypoglycémie. Donc, pendant 6 mois, j'ai presque fait une dépression. Mon taux de sucre descendait. Je dessinais 1 heure, j'allais me coucher. Ma fille, qui avait 7 ans à ce moment-là, que j'adorais... qui avait une super belle relation avec sa grand-maman, je l'ai regardé aller, je me disais, ça serait intéressant.
Ah,
et là, j'ai commencé à mijoter l'idée d'une petite fille avec sa grand-maman, en ville, évidemment. Mais à ce moment-là, je voulais faire un album, parce que j'étais pas encore un écrivain, j'étais un dessinateur. Mais là, j'ai essayé d'écrire un album, ça fonctionnait pas du tout, parce que là, écoute, la première journée, je pensais, un texte d'album, mettons, ça a 3 pages. Ça, mettons 1000 mots maximum.
Ouais.
À la fin de la première journée, j'étais rendu déjà à 8 pages et ça ne faisait que commencer. Et là, je me disais, là, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne peut pas être un album si ça a juste 8 pages, puis j'ai juste commencé. Donc là, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Mais j'étais vraiment perdu. Et... Bien là, je vais me reprendre demain, là, je vais essayer de faire de la synthèse de tout ça. Parce qu'un texte d'album, c'est de la synthèse. Je m'installe le lendemain matin, le plaisir d'écrire me prend au trip. J'ai écrit un autre 8 pages, 9 pages, 10 pages, j'étais rendu à 20 pages à peu près. Là, je ne comprenais plus rien. Puis là, à un moment donné, j'ai lâché prise carrément. J'ai dit, je laisse aller jusqu'au bout parce que là, de toute façon, je ne peux rien faire contre ça.
Et là, on parle bien sûr de la naissance de Noémie. Tu m'apprends que je ne savais pas que cette petite Noémie est inspirée de ta propre fille de 7 ans et 3 quarts.
Ma Noémie est inspirée directement de ma fille Marlène.
Ah oui!
Écoute, quelle belle histoire!
Je suis contente de savoir ça, je ne savais pas.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que ma fille avait 7 ans et 3 quarts. Super belle petite fille, très dynamique. Sa copine Laurence, qui restait juste à côté de chez moi, même âge, ils allaient à l'école en face. Écoute, ils étaient... Puis les deux ensemble avaient une espèce d'imagination folle. Il n'y a pas un des deux qui arrêtait l'autre. C'est le contraire, c'était... On en met. Et ma fille Marlène, qui avait une super belle relation avec sa grand-maman, ils allaient ensemble au cinéma, ils allaient ensemble au restaurant. Fait que c'est vraiment né de là. Et pour faire la personnalité de Noémie, j'ai pris la personnalité de ma fille, la personnalité de sa copine, Laurence. J'ai mixé ça ensemble, j'ai brassé ça ensemble, ça a donné Noémie.
Puis c'est un personnage qui t'a inspiré. Écoute, t'en as écrit 25.
Ben oui.
De 1996 à 2015.
Ben oui.
Comment on trouve, quand même, j'imagine comment on trouve l'inspiration, parce qu'à un moment donné, petite Noémie est devenue grande, petite Marlène est devenue grande. Pendant 25 ans, ça continuait de te nourrir, ce personnage. Comment ça se présentait? Où tu trouvais ton inspiration pour continuer? Puis je pense que t'aurais encore continué comme ça des dizaines d'années.
Oui, j'aurais pu continuer, mais je me suis dit 25, c'est un beau chiffre pour arrêter, tu sais. Puis en même temps, ça prend beaucoup de temps, écrire une série. Donc, puis j'avais le goût d'écrire d'autres choses aussi.
Mais moi, je me pose une question. Étant donc à la base illustrateur, et j'imagine que quand tu te lances dans l'écriture d'une histoire, tu vois les lieux, tu vois les personnages, tu imagines à quoi ils ressemblent. Est-ce que, étant le fait que tu sois illustrateur, est-ce que ça rend plus difficile le fait de travailler avec un autre illustrateur? Comment tu fais le choix de ces illustrateurs-là? Parce que ça prend beaucoup d'abandon pour faire en sorte que ton monde soit illustré, soit vu par le regard d'un autre illustrateur, par quelqu'un d'autre, en fait.
Oui, c'est-à-dire que quand j'écris, c'est parce qu'il y a 2 phases là-dedans. Quand j'écris, c'est sûr que je vois tout. Il paraît que j'ai une écriture très visuelle.
Oui, absolument.
Donc, je vois mon film intérieur. quand je le donne à un illustrateur, bien, premièrement, on fait ce qu'on appelle un casting ou un choix. Je travaille avec l'éditeur. On essaye de trouver le bon illustrateur pour le bon texte.
Donc, tu participes beaucoup à cette étape-là.
J'essaye de participer à cette étape-là parce que c'est très important. Ouais. C'est un peu comme choisir. Tu choisis le bon acteur pour le bon rôle au cinéma. Puis après ça, tu lui dis pas quoi faire. Non. Tu le laisses aller dans ses qualités, dans ses possibilités.
Tu lui fais confiance, tu l'as choisi.
Tu lui fais confiance, après ça, tu le laisses s'exprimer. Moi, il n'y a rien que je détestais plus au monde quand j'étais illustrateur qu'un auteur qui arrivait et me disait « mon petit garçon dans mon livre, là, c'est mon fils, puis il me montrait la photo de son fils. Ouf. Voici la maison, voici la grand-maman, voici ça. » Ben là, tu dis « j'ai des deux mains attachées dans le dos, pourquoi illustre-le toi-même?
»
Il faut que tu laisses la possibilité à l'autre, en tant qu'artiste, de développer cet univers-là. Puis même, ce qui est le fun, c'est d'avoir des surprises. Quelqu'un qui m'arriverait, un illustrateur qui m'arriverait avec exactement tous les trucs que j'avais imaginés, personnellement, je serais déçu.
Ah oui.
Parce que c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. Il faut que tu m'amènes ça ailleurs dans ton univers à toi pour ouvrir cette chose-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai presque jamais voulu illustrer mes trucs. Parce que là, je me suis dit, au début, je me suis posé la question, si j'illustre, j'écris, bon, je fais mon univers. J'illustre, je refais mon univers, je vais tourner en rond. Tandis que si j'ouvre aux autres, là, on participe. Il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute à cet univers-là.
Oui, on donne la possibilité à cet univers, justement, de se transporter un peu ailleurs. Ben puis c'est enrichissant.
C'est un partage. Moi, je vois ça comme un partage. Puis c'est une ouverture. Puis c'est le fun de choisir un illustrateur, puis même pas savoir trop ce qu'il va faire, puis d'arriver et de dire « Oh, wow! » Il ajoute une autre dimension à la mienne.
Ouais. Mais ça prend, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'ouverture et d'abandon pour laisser vivre le personnage à travers les yeux de quelqu'un d'autre.
Oui, bien, ça prend d'abandon, premièrement.
La plume, en fait.
Ma façon d'écrire demande énormément d'abandon, parce que comme je ne sais pas ce qui va arriver, c'est comme un univers qui s'auto-alimente,
s'auto-génère. Oui, tu m'as déjà raconté quelque chose que je trouvais fascinant, où tu m'avais dit... C'est pas moi qui
écrit.
C'est pas moi. En fait, c'est moi, mais je suis portée par... C'est Noémie qui décide ce qu'elle veut faire. Là, puis quand quand t'abordais chacun de ces tomes, quelque part, tu savais où les choses commençaient, puis tu savais jamais vraiment où ça se terminait, parce que c'est Noémie qui prenait un peu possession de ta plume. C'est vrai.
C'est vrai, mais pas juste pour Noémie. C'est vrai pour à peu près tout ce que j'écris. Ouais. C'est-à-dire que moi, je travaille jamais, je fais jamais de plan. Je fais pas de plan et c'est le personnage qui m'emmène à peu près où il veut.
Ah oui! C'est-à-dire que tu fais pas de plan, mais tu as une idée, j'imagine, générale de ce que tu veux exploiter comme filon, comme idée, comme
direction.
J'ai une
idée de départ. Mettons, je dis, je vais parler de la mort.
Oui.
Mais c'est à peu près tout.
C'est tout.
À un moment donné, je peux me dire, je vais parler de la mort, puis je peux attendre 6 mois avant de l'écrire, là. Puis je pense pas vraiment ça, c'est mon inconscient, je pense, qui travaille. Ça a l'air un petit peu bizarre, ésotérique, mais c'est juste vivre ce moment présent-là de l'écriture en compagnie d'un personnage. Puis quand je parle aux enfants, les enfants me regardent toujours avec un drôle d'air, comme tu me regardes avec un drôle d'air présentement. Parce que c'est assez spécial. C'est comme, je parle d'un ami, je parle d'un personnage comme un ami, ou quelqu'un que tu connais pas encore. Tu sais, puis je donne l'exemple aux enfants. Tu arrives dans la cour d'école, il y a quelqu'un que tu vois... Ah, tu le trouves le fun, tu joues au ballon avec lui, tu le connais pas. Puis tout à coup, il vient sonner chez vous, puis il dit, toi, t'avais prévu, mettons, regarder la télévision toute la journée. Lui, il arrive, puis il dit, hey, on va-tu faire un tour de vélo? Ah, t'avais pas pensé à ça. Fait que tu pars en vélo avec lui. Est-ce qu'on s'en va? Je sais pas, on s'en va. Okay. Puis là, évidemment, quand t'es en mouvement, il arrive quelque chose. Moi, je crois beaucoup à ça, au mouvement physique, au mouvement intérieur.
Oui, on a parlé beaucoup de Noémie. J'ai été vraiment très heureuse d'apprendre que c'était ta belle-fille qui avait inspiré ce personnage. Mais là, on va parler d'un nouveau personnage.
Oui!
Un beau, beau, beau roman jeunesse que tu viens tout juste de publier en octobre dernier, donc quelques mois, et dont le titre est « Super Sarah à l'école des parents ». Donc, encore une jeune fille... que de la personnalité, que du caractère, qui est espiègle, qui est ratoureuse aussi, qui a des idées, qui a une imagination débordante. On dirait que ces personnages-là, finalement, t'habitent.
Ben oui, parce que ce sont des personnages qui dynamisent des choses, tu sais.
Fille encore aussi.
Oui, une petite fille, c'est peut-être l'influence encore de ma fille. Ça pourrait être la cousine de Noémie, dans le fond, ou la grande sœur de Noémie. Oui, moi, je suis habité par des personnages qui dynamisent des trucs, parce que sinon, sinon il ne se passe rien.
Ouais. Puis ça t'est venu comment, cette idée-là? Parce qu'il faut rappeler Sarah, c'est une petite...
une petite vite.
Une petite Moses, ouais, qui décide, en fait, un jour, qui devant, elle observe ses parents se comporter avec elle, les parents de ses amis, puis elle se dit, mon Dieu, que les parents ne savent pas être de bons parents.
Ouais.
Puis elle revendique le droit de... En fait, elle demande aux parents... Elle dit, le constat est clair. En fait, je lis la quatrième de couverture qui me fait beaucoup rire, parce que ça résume très bien. Les sandwichs aux œufs dans les lunchs, c'est assez. Ses parents qui sont moins attentifs que son hamster, c'est assez. Les parents qui crient tout le temps et qui disent toujours non, c'est assez. Roll-ball des parents qui ne comprennent pas et n'écoutent pas leurs enfants. Comment faire pour que les adultes apprennent à devenir de bons enfants? Ben, ça tombe bien. Super Sarah a toujours une idée géniale en réserve.
Oui.
Ça t'est venu comment, cette histoire-là de Super Sarah?
C'est une idée que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis petit, je pense. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui traînent depuis très longtemps. C'est qu'à un moment donné, quand tu es jeune, tu regardes le monde aller, puis tu dis, OK, nous autres, on va à l'école, les enfants, toute la journée, tu sais. On fait les devoirs, on fait les leçons. Les parents, ils apprennent ça comment?
Ouais.
Puis là, tu te rends compte à un moment donné que...
Ils sont pas toujours top, tu sais,
ben
on
non,
s'entend.
Ben non,
dans ça. Le regard des enfants.
Ben oui, dans le regard des enfants, toujours. Puis quand tu regardes tes parents âgés, tu regardes les parents des autres âgés qui n'agissent pas tout à fait pareil. Là, tu te dis qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Là. Pourquoi nous autres, on est formatés, tu sais?
Ouais.
On serait formatés. Puis pourquoi eux, ils ont l'air comme d'improviser ou d'apprendre un peu n'importe comment? Fait que c'est un peu cette idée-là vient... Ça fait très, très longtemps que je traîne
ça. Ça fait très longtemps que ça mijote.
Oh, oui, l'idée de que quelqu'un, un personnage, à un moment donné, parte une école pour les parents.
Ouais.
Mais évidemment, c'est drôle. C'est une satire. Mais j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec ce personnage-là. Puis en plus, on a ajouté des diplômes pour les parents, pour les professeurs.
Oui. Puis il y a les diplômes, effectivement, qui sont très drôles, qui sont en fin d'ouvrage, où on voici, grâce à tous les privilèges qui me sont conférés, je déclare solennellement que un tel est le plus extraordinaire des papas, ou est le plus extraordinaire des enseignants.
Oui.
Mais il y a d'autres choses qui m'ont fait vraiment beaucoup, beaucoup rigoler. C'est ces espèces de listes, hein?
Ah oui.
Parce que Super Sarah, elle fait des listes. Donc là, j'en regarde une ici. Super Sarah. Donc, trucs et astuces pour les parents à la maison. 1. Fournissez de vieux draps pour faire des cabanes. Fournissez des lampes de poche pour lire pendant la nuit. Mettez beaucoup de mousse dans l'eau du bain. Ajustez l'eau du bain à la bonne température, etc. C'est une comique.
Oui.
C'est très, très drôle. C'est vraiment très drôle. Mais on reconnaît ton humour aussi, tu sais. Gilles, j'aurais envie que tu nous lises un extrait de Super Sarah.
Ben oui, avec plaisir. Je vais vous lire un extrait de Super Sarah, l'école des parents, de chapitre 5, qui s'intitule « Faire semblant de rien ». Dring, dring, dring! La cloche résonne dans la cour de récréation. Je referme mon calepin, puis je vais me placer dans ma rangée. J'essaie de faire semblant de rien. J'essaie de ne pas montrer que j'ai une idée extraordinaire, mais je trépigne sur place. J'en ai la tremblotine, la gigotine, la frissonine. Sonia s'avance pour me dire subtilement « Super Sarah, je t'espionne depuis tout à l'heure. Je le sais, c'est quoi ton idée géniale? » Elle s'approche pour me chuchoter à l'oreille. « Je t'ai vu prendre des notes. Tu essaies de savoir à quelle heure les élèves arrivent à l'école. Ou bien tu prends des notes sur leur habillement. Ou bien tu... » Je n'écoute même plus ce qu'elle dit parce que je connais sa tactique. Elle essaie de me faire parler pour que je me trahisse moi-même. Pour que je dise « Non, 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 c'est pas ça. » Mais je n'ouvre pas la bouche. Je ne dis pas un mot. J'entre dans l'école en imaginant que mon plan se réalise. L'espace d'un instant, j'imagine une école pour les parents. Oui, une école pour les parents. Mais bien sûr, je serai la directrice générale. Les enfants seront les professeurs et les parents deviendront les élèves. Les grands adultes seront recroquevillés sur nos petits bureaux. Ils auront de l'air ridicules. Mais c'est souvent comme ça quand on apprend quelque chose. On a les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. J'imagine que les parents qui posent des questions et les enfants qui donnent des réponses. Je me le répète et me le redemande à voix basse. Qui sont les plus susceptibles de savoir ce que veulent les enfants? La réponse est évidente. Les enfants eux-mêmes. J'entre bien sagement dans ma classe, mais oups, notre professeur est absent aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce sera la catastrophe. Il y aura de gros problèmes de discipline. Tout le monde parlera en même temps. Quelques élèves se retrouveront chez le directeur. Notre professeur habituel est remplacé par une dame. Une dame gentille avec un immense sourire. Sa voix est douce comme le miel. Tous les élèves s'assoient en chuchotant et en gigotant comme des vers à choux. Des vers à choux, ce sont des petits vers qui gigotent toujours, même quand ils dorment. Nullement impressionnée par notre classe de vers à choux, la gentille remplaçante nous regarde en souriant. Elle se présente, nous demande notre prénom, puis sans jamais hausser le ton, elle nous propose d'ouvrir nos cahiers. Comme par magie, sans rouspéter, sans chialer, sans bougonner, nous ouvrons nos cahiers et nous commençons à étudier dans la joie. Ça, c'est du super professeur! Cette gentille remplaçante devrait donner des cours à mon prof régulier. Par contre, elle semble très, très, très pointilleuse, très exigeante. Ça prouve qu'elle n'est pas parfaite et qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration.
Ah, oh, c'est bon! Alors Gilles, dans le cadre de cette balado-diffusion chez l'éditeur, je demande à mon invité de me parler d'un auteur ou d'une œuvre, ou des deux. Un auteur ou une œuvre, bien sûr, qui a été importante dans son parcours, et de nous expliquer pourquoi. Et tu as choisi de nous parler de François Gravel et de son roman Granulite, un roman jeunesse paru en 92. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi avoir fait ce choix.
Bien, c'est un livre qui était important pour moi, je pense, parce que quand j'ai commencé à écrire, évidemment, comme je n'étais pas écrivain, j'étais un dessinateur à ce moment-là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans ma vie. T'sais, j'adorais écrire, ça, c'était évident. Et quand je suis tombé par hasard, presque par hasard, sur Granulite, j'ai lu Granulite, puis là, je me suis dit, ah, tiens, OK, là, on peut écrire des choses qui sont quotidiennes, qui sont belles, puis l'écriture n'a pas d'ampoulage, c'est pas ampoulé, c'est sobre, c'est comme écrire efficace, c'est comme écrire presque, j'allais dire presque écrire la vérité du personnage. J'ai peut-être découvert un petit peu ça en lisant Granulite, l'espèce de vérité des personnages. Puis quand on écrit, dans le fond, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut que les personnages soient crédibles, qu'ils soient vrais. Et autant pour l'auteur, puis ils deviennent vrais pour le lecteur aussi. Donc, je pense que j'ai découvert ça avec François Gravel, avec Granulite. En plus, ça parlait des mots, ça parlait du langage, ça parlait des parents, ça parlait de tout ça. Puis, c'était comme une confirmation que oui, on peut écrire dans ce sens-là.
Et je pense que tu as choisi de nous lire un extrait.
Oui, j'ai un petit extrait ici, justement, où il parle des parents, pour faire un lien avec Sarah, l'école des parents. Parfois, mes parents ne veulent pas répondre à mes questions, mais je réussis toujours à les faire parler. Quand j'étais plus petit, je leur posais 2000 fois la même question, jusqu'à ce qu'ils soient tellement tannés qu'ils finissent par répondre. C'est un bon truc, sauf que c'est fatigant, et parfois les parents se fâchent vraiment et ne disent plus rien. L'autre moyen, c'est d'attendre le moment propice. Quand mon père rentre de son travail, par exemple, rien ne sert de lui parler, il bougonne tout le temps. Mais après le repas, surtout quand il a bu un peu de vin, c'est plus facile. Avec ma mère, le moment propice arrive à la fin de la soirée, quand elle vient me voir dans mon lit. Elle est plus calme que d'habitude, on parle de choses et d'autres, et je finis toujours par savoir ce que je veux savoir. Pour trouver le moment propice d'une personne, il faut bien la connaître. J'ai décidé d'observer Granulite jusqu'à ce que je trouve son moment propice.
Donc, il y a effectivement un lien de parenté entre l'œuvre de Granulite et...
Dans le côté quotidien, une vision du quotidien.
Merci infiniment, Gilles, de nous avoir fait la lecture, de nous avoir parlé de ce roman de François. Merci aussi de nous avoir parlé de toi, de ton parcours, de Noémie, bien sûr, de tous ces personnages qui peuplent ton imaginaire et de ta nouvelle muse,
oui,
Sarah.
Oui, ma nouvelle muse, Sarah.
Et merci d'avoir lu un extrait aussi. Donc, vraiment, ça a été une très, très belle rencontre pour moi. Je remercie beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Une belle rencontre pour moi aussi.
Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique, réalisée par Philippe Collard. Si vous aimez notre émission, je vous encourage à le manifester en donnant une note ou en rédigeant un commentaire sur la page de Chez l'éditeur dans la boutique iTunes. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Monopole. Les autres pièces musicales entendues dans cet épisode sont des œuvres de Lee Rosevear, je vous invite à passer nous voir à notre café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert, à Montréal. Je suis Martine Podesto et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Chez l'éditeur.